Nous allons à présent passer les 40 prochaines minutes en compagnie d'un auteur aussi passionnant que sympathique. Quelle joie d'avoir fait la connaissance à distance de Benoît Grison. Quelle chance pour notre région Centre-Val de Loire de compter parmi ses enseignants-chercheurs des esprits aussi rigoureux et curieux. Benoît Grison est docteur en sciences cognitives. J'y reviendrai dans un instant avec lui. Et il est l'auteur du livre « Les portes de la perception animale » sorti chez Delachaux et Niesley et illustré par Arnaud Raphaëlian, que les lecteurs de la revue Espèces connaissent bien. À vrai dire, j'ai contacté Benoît après la lecture de son précédent ouvrage chez Delachaux, une étude enthousiasmante et très complète consacrée à la cryptozoologie, cette science qui s'intéresse aux animaux inconnus dont on n'arrive pas à savoir s'ils existent vraiment ou s'ils sont le fruit d'imaginations fertiles. Du yéti au calamar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie est une lecture que je vous recommande vivement et d'autant plus que nous retrouverons prochainement Benoît pour en parler longuement. Mais revenons aux portes de la perception animale. On y découvre réellement de nouveaux mondes, avec des perceptions animales plus ou moins proches de la nôtre. Certains pourront sembler familières, d'autres, au contraire, tout à fait autres. Benoît Grison, dans cet ouvrage, nous propose un tour d'horizon des différentes perceptions et de ce que la science peut nous dire d'elles. Cette question amène immanquablement à une autre. Si les animaux perçoivent, ressentent-ils ? Retrouvons sans plus tarder Benoît Grison, qui revient pour vous sur son impressionnant travail de recherche et de transmission. Bonjour Benoît Grison et merci beaucoup d'être avec nous le temps de deux entretiens autour de vos ouvrages disponibles aux éditions Delachaux et Niesley. Alors d'une part, du yéti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, et d'autre part, les portes de la perception animale. C'est sur ce dernier que portera notre premier entretien, un essai qui effectivement nous ouvre des perspectives sur la perception animale, des perspectives d'autres d'autant plus vertigineuse que l'on constate que les façons de percevoir et d'appréhender notre monde sont d'une incroyable diversité et échappent la plupart du temps à nos propres sens humains. Alors Benoît Grison, avant d'aller plus avant avec vous dans cette exploration des perceptions animales, parlons un petit peu de vous et de votre parcours. Vous êtes notamment docteur en sciences cognitives. Alors vous conviendrez, il me semble, que peu de gens savent ce qui se cache derrière ce terme. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Quel champ d'études il implique?
Oui, c'est pas si compliqué, comme je commençais à le dire à l'instant. Les sciences cognitives, c'est tout ce qui étudie en fait les mécanismes qui permettent aux êtres vivants de percevoir leur environnement avec leurs sens, et on y reviendra dans quelques instants, voir de raisonner et bien sûr de mémoriser des stimuli venant de l'environnement. Bref, ça traite de ce qu'on appelle la cognition, qu'on appelait parfois autrefois, mais c'est un terme qui ramène trop les choses à l'homme, l'intelligence. Bref, les sciences cognitives, c'est un ensemble de sciences qui regroupe une partie des neurosciences, une partie de l'éthologie, une partie de la psychologie cognitive moderne, et qui essaie d'élucider l'évolution de ces mécanismes de perception et de compréhension de l'environnement par les animaux, par les espèces animales.
Alors vous êtes également biologiste, c'est un parcours polyvalent, en tout cas que l'on devine.
Oui, je suis spécialisé effectivement en sciences cognitives, mais ma formation initiale était à la fois en biologie animale et en neurosciences, voilà. Mais bon, quand on fait des sciences cognitives, on vient souvent des sciences de la vie, oui.
Dans les portes de la perception animale, finalement, vous conjuguez vos deux disciplines de référence ?
Oui, on peut dire ça, exactement. C'est un exercice, alors je vais un petit peu jargonner, mais ne soyez pas effrayés, de psychophysiologie comparée, c'est-à-dire quelles sont les bases de la perception physiologique du monde à travers leurs sens chez les animaux. Et donc, c'est à la fois de la zoologie, parce que ça m'amène à parcourir l'ensemble du monde animal, et c'est aussi des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, ce livre. Voilà. Et puis alors, là encore, hein, ce n'est pas pour complexifier mon propos, comme je suis également sociologue des sciences, je suis très sensible à l'histoire de la découverte de la perception animale et au fait que longtemps on a dit dénier aux animaux des capacités perceptives assez extraordinaires parce qu'on les sous-estimait à cause de nos préjugés anthropocentriques. Hein. On s'est toujours vu au sommet de la création ou de l'évolution, ce qui est un tort.
Alors justement, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis ces dernières années sur le monde animal que l'on commence à comprendre, ou tout du moins sur lequel on lève un petit peu le voile. Beaucoup de ces ouvrages relèvent avant tout de l'éthologie. On va chercher à décrypter les comportements, les émotions des animaux, parfois et même souvent, pour les rapprocher des nôtres. Votre livre, me semble-t-il, est d'autant plus intéressant qu'il va un petit peu à contre-courant, ou disons qu'il invite à ne pas aller trop vite en besogne et à prendre conscience avant tout des grandes différences entre nous et les animaux d'une part, mais aussi entre les animaux eux-mêmes. Est-ce que pour chercher à comprendre les animaux, il ne faut pas avant tout respecter ces différences fondamentales?
Oui, il faut les prendre pour eux-mêmes, hein. En fait, dire qu'on n'est pas au sommet de l'évolution, ou qu'on n'est pas les organismes les plus performants, nous autres êtres humains, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un performant en biologie, c'est une chose. Mais dire qu'on n'est pas au sommet de l'évolution, c'est pas non plus dire que il faut attribuer forcément toutes nos capacités aux animaux. Il faut traiter cas par cas. Il y a des animaux qui sont capables de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire, hein, et notamment au niveau perceptuel, on y reviendra. Mais bien sûr, il y a aussi des choses qu'on est capable de faire sur le plan cognitif que les animaux ne sont pas à même de faire. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais les études éthologiques sont super intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue interdisciplinaire, alors c'est lié en partie au parcours que j'ai eu la chance d'avoir, qui est interdisciplinaire, c'est d'articuler en fait la neurobiologie, hein, l'étude du cerveau animal ou humain et les comportements perceptuels. Voilà. Mais voilà, chaque espèce doit être prise pour elle-même. Chaque espèce est très bien adaptée à sa niche écologique et extraordinaire en elle-même. Il n'y a pas besoin pour la rehausser et pour battre en brèche avec raison le fait qu'on n'est pas au sommet de l'évolution, nous, êtres humains, de lui attribuer forcément des capacités humaines qu'elle n'a pas toujours.
Cette question de la perception est absolument fascinante. Vous rappelez dans votre livre que cette perception, elle est forcément limitée par les sens, par les outils que la nature a mis à notre disposition pour appréhender le monde.
Absolument.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un monde, mais des mondes, pas une seule réalité, mais plusieurs?
Alors, je ne m'engagerai pas sur un terrain trop philosophique, mais c'est certain que nous sommes limités dans notre perception du monde, nous, les humains, les femmes, les hommes, par les sens qui sont les nôtres. Et on a du mal à imaginer ce que ça peut être de percevoir le monde quand, comme une puce, on est capable, si vous voulez, de sauter en hauteur de 10 cm, ce qui reviendrait pour nous à une capacité à être humain de sauter comme ça à 100 mètres de hauteur. Quelle est la perception de l'espace d'une puce? On n'arrive pas à l'imaginer. Donc effectivement, il y a quand même un problème qui est posé par la perception animale, qui a été résumé par le philosophe américain Thomas Nagel en 1975. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un corps qui est très différent avec ses systèmes sensoriels, par ses systèmes sensoriels du nôtre? Par exemple, Nagel disait, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? C'est-à-dire quelque part de voir avec ses oreilles, hein, grâce à l'écholocation pour la chauve-souris. Donc oui, ça pose quand même un problème philosophique, mais il y a quand même une capacité qu'a l'être humain, grâce à ses très grandes aptitudes cognitives, à contourner en partie ses limitations sensorielles grâce à la méthode scientifique et aux outils de la science, qui permet quand même d'investiguer, de se mettre pour partie à la place des animaux dans leur monde sensoriel.
Parlons de ces outils à notre disposition, par quoi passe la perception animale? Est-ce que les cinq sens que l'on connaît sont universels, quoique plus ou moins développés?
Alors, ils sont à peu près universels, les cinq sens que l'on connaît, mais il faut quand même leur ajouter un certain nombre de sens qui, eux, ne sont pas toujours présents, comme la perception du champ électromagnétique. Et puis des sens qu'on oublie toujours, y compris à propos de l'être humain, comme la perception de son propre corps dans l'espace. Et donc, si vous voulez, la perception, c'est un domaine beaucoup plus vaste qu'on ne le croit. Vous avez d'une part la vision, qui commence même chez certains êtres unicellulaires, hein, ça on le sait maintenant, ou chez certaines méduses, mais vous avez bien sûr l'audition, l'olfaction, hein, bien sûr, le tact, la gustation, mais vous avez aussi, comme je le disais à l'instant, la perception du corps dans l'espace, parfois la perception du champ magnétique, des champs électromagnétiques, mais pas chez tous les animaux, et puis vous avez la perception de la douleur. Alors là, ça ouvre un autre problème philosophique, éthique. Quels sont les animaux qui perçoivent de manière consciente la douleur? Donc, en réalité, la perception dans le monde animal, y compris l'humain, c'est une dizaine de modalités sensorielles. Voilà. Et non pas cinq sens.
Au début de votre essai, vous faites un petit peu d'histoire et vous nous plongez dans un monde là résolument étranger, celui des cellules. Vous commenciez à nous en parler. Alors faut-il vraiment remonter à ce niveau pour trouver les origines de la perception?
Ce sont les prémices, parce que dès que vous avez les premières cellules, hein, bon, et ça, c'est quand même il y a plus de 3 milliards d'années, hein, l'origine de la vie. Bah, dès que vous avez les premières cellules, vous avez ce qu'on appelle un milieu intérieur, parce qu'une cellule, c'est une membrane qui contrôle les échanges de nutriments, de matière et d'énergie avec l'extérieur. Bon, bah, dès que vous avez une membrane, vous avez un milieu intérieur. Bien. Et. En fait, la cellule, pour se maintenir en vie, puis se perpétuer, elle a besoin de détecter ce qui se passe dans le milieu extérieur, au-delà de sa membrane, au-delà de son petit monde cellulaire. Et pour ça, elle utilise déjà des protéines qui sont des sortes de capteurs, qui sont des senseurs, des récepteurs, pour savoir quels sont les nutriments utiles présents dans l'environnement, quels sont les stimuli nocifs, etc. Donc oui, les prémices de la perception commencent à la cellule. Et d'ailleurs, vous avez des animaux unicellulaires complexes qui ont déjà un noyau vrai qu'on appelle les protistes, hein, l'amibe en est un, qui carrément se comportent, du moins quand ils ont, je dirais, des comportements de type animal, se comportent comme des, par exemple, des prédateurs qui perçoivent les petites bactéries dont ils se nourrissent, qui captent la lumière avec des taches de pigments, etc. Donc oui, il y a une nécessité pour la survie et la perpétuation de l'espèce, dès le stade unicellulaire, de percevoir ce qui se passe en dehors de la cellule. Alors a fortiori, quand vous êtes un organisme pluricellulaire, par exemple une méduse, par exemple un ver, par exemple un être humain.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le premier sens, c'est la vue?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, justement, on retrouve le problème de l'anthropocentrisme, tout ramener à notre espèce dans la vision qu'on a de l'évolution du monde vivant. Chez les primates que nous sommes, la vue est extrêmement importante, hein. Elle l'est depuis les singes. Alors, les psychologues disent souvent qu'on est des animaux scopiques, encore un mot savant, mais ça veut juste dire des animaux qui sont complètement obsédés par les informations visuelles. Mais en réalité, vous avez des animaux chez lesquels la vue est beaucoup moins importante que nous et qui sont tout aussi, entre guillemets, performants que nous d'un point de vue perceptif. Le chien ou l'ours, par exemple, bon, bah, leur vue n'est pas très bonne, hein. Le chien, il perçoit les couleurs de manière passée, hein. Il perçoit assez bien le bleu, le jaune, etc. Par contre, bon, il détecte bien les mouvements, ok. Mais le chien, il descend du loup, qui est un prédateur nocturne. Et bon, il n'a pas une très bonne vision diurne, le chien. Par contre, il est incroyable, comme le sait tout propriétaire de chien, d'un point de vue olfaction. Et si vous voulez, notre muqueuse olfactive à nous, être humain, elle fait 4 cm². Eh bien, chez le chien, elle fait au moins 20 fois plus, hein, en surface, la muqueuse olfactive. Parfois même encore plus que 20 fois plus que la nôtre, parfois 30 fois quand il s'agit de grandes races de chiens. Les ours aussi sont extraordinaires en ce qui concerne l'olfaction. Et donc ces animaux-là, la vision n'est pas très importante pour eux par rapport à l'olfaction. Donc il faut vraiment se garder de voir dans la vision le roi des sens, la reine des sens, parce qu'en réalité, c'est peut-être vrai chez nous, primates, un grand singe que nous sommes, biologiquement parlant, les Homo sapiens, mais c'est pas vrai chez plein d'animaux.
Votre ouvrage fait la part belle aux vedettes de la perception, comme les oiseaux migrateurs, les chauves-souris ou encore les requins, mais il met également en lumière des créatures moins familières mais tout aussi surprenantes, que l'on a longtemps sous-estimées et qui s'avèrent très bien armées pour la perception. Et c'est le cas notamment de tous ces animaux que l'on regroupait naguère sous l'appellation d'invertébrés. Alors pourquoi ont-ils si longtemps été sous-estimés?
Bah parce que en fait, pendant longtemps, les premiers biologistes modernes, même s'ils adhéraient au fait évolutif, au fait qu'il y a une évolution et que le monde animal a une unité, eh bien les premiers biologistes modernes étaient, comme on dit, à hiérarchiser les organismes. Ils avaient tendance à penser que les invertébrés, qui regroupent en fait des animaux à des embranchements très différents, étaient plus primitifs que les vertébrés que nous sommes. Du coup, ça crée une sorte de biais mental. Parce que, ils avaient tendance à moins faire de recherches sur la perception des invertébrés que sur les vertébrés, ce qui est une grande erreur. Hein. Par exemple, vous prenez une méduse qui est une méduse des palétuviers dans les mangroves du sud-est asiatique, et bien cette grande méduse voit les couleurs. Elle a développé une excellente vision des couleurs parce que hein, pour chasser les petits crustacés là, qu'elle paralyse avec son venin. Dans cet enchevêtrement de racines de la mangrove, elle a besoin d'une vision excellente et elle a même développé la couleur. Vous avez la skimmante qui est un crustacé tropical également, qu'on trouve dans le Pacifique. Et ben, la skimmante, si vous voulez, là où on a, nous, trois types de photorécepteurs de type perception des couleurs, hein, bon, hein, le système bleu, vert, rouge, avec ça, avec cette palette, on fait toute notre vision des couleurs. Eh bien, la skimmante, elle n'a pas trois photorécepteurs couleurs comme nous, mais 12. Et en plus, elle perçoit la lumière polarisée. Donc, vous voyez que ces exemples de crustacés et de méduses montrent bien qu'on ne s'attendait pas autrefois, quand on considérait ces animaux comme primitifs évolutivement, à les voir percevoir, c'est qu'à le dire, les voir percevoir, à découvrir qu'ils percevaient la couleur, et parfois mieux que nous. Bon, donc là, il y a vraiment un changement dans la vision de l'évolution qui s'est fait ces 60 dernières années, c'est-à-dire on ne voit plus l'évolution comme quelque chose qui va du primitif au complexe, entre guillemets. On voit en fait la vie comme une espèce de grand corail, pour reprendre une métaphore de Darwin, avec des tas de branches, mais on ne peut pas dire qu'une branche soit supérieure à une autre.
Le cas des céphalopodes est particulièrement intéressant en la matière, notamment en matière de perception visuelle, si j'ose dire, mais en tout cas, ce sont des animaux qui se sont révélés particulièrement étonnants.
Tout à fait. Bah, les céphalopodes, si vous voulez, ils ont des yeux. Et ça c'est tout à fait extraordinaire et unique dans le monde des invertébrés entre guillemets, par convergence évolutive qui ressemble aux nôtres, à ceux des vertébrés. Voilà. Hein, que ce soit au niveau du cristallin, la rétine, etc. Et en fait, d'un coup, vous avez des animaux qui, contrairement à leurs autres cousins mollusques, hein, je pense par exemple à la coquille Saint-Jacques, qui elle-même a une vision, qui ont des yeux comme nous. Comme nous, vertébrés, hein, etc., à quelques détails près, hein, quand même. OK. Bien. Et alors, ces animaux-là ont une riche utilisation de leur modalité visuelle pour leur cognition, hein, pour leur mécanisme d'intelligence et pour leur vie sociale. Vous savez, il y a des chromatophores, des cellules spécialisées qui permettent aux poulpes de changer de couleur. Et comme ça, ils expriment ces changements d'émotion vis-à-vis d'autrui. Et bien entendu, même si ce n'est pas un animal très social, les autres poulpes comprennent très bien quel est l'état émotionnel d'un poulpe donné à la couleur qu'il prend. Bien, ça c'est prouvé. Sauf que pendant longtemps, on s'est dit, ah oui, mais les yeux du poulpe sont vachement sophistiqués, mais il ne peut pas percevoir les couleurs. Bon, ce qui était contradictoire, parce que d'un côté, on voyait bien qu'il y avait un système de communication pour exprimer ses émotions par les couleurs, et il n'aurait pas pu percevoir les couleurs. Mais maintenant, on sait que grâce à la forme de la pupille en W, eh bien, en fait, l'œil du céphalopode, du moins dans le cas du poulpe et du calmar, peut décomposer la lumière blanche comme un prisme et percevoir les couleurs. Et donc, oui, les céphalopodes sont des animaux fascinants par leur grande intelligence. Hein, on a fait beaucoup de tests cognitifs sur eux. Ils sont capables de planifier des actions complexes. Ils sont capables de détecter les émotions des autres, notamment à travers les changements de couleur du corps d'autrui. Et pour tout ça, ils utilisent beaucoup, comme nous, la vision.
Parmi les outils de perception qui nous sont étrangers, on trouve la sensibilité électromagnétique. Est-elle répandue dans le règne animal et pourquoi les humains en sont-ils privés?
Alors, et voilà, là, une petite énigme, c'est que la sensibilité électromagnétique, la sensibilité au champ magnétique terrestre, pour être très clair, ces variations, on n'a pas pu prouver à ce jour que l'être humain en était doté. Alors, il y a un chercheur américain qui est un géophysicien spécialiste du champ magnétique terrestre, Joël Kirchwinck, qui pense avoir montré mis en évidence quelques éléments qui iraient dans le sens d'une perception inconsciente du champ électromagnétique par les êtres humains. Il a enfermé des gens dans des enceintes qui simulaient en fait le champ magnétique terrestre et ses variations, et ils ont montré que lui et son équipe ont montré que les sujets enfermés dans ces enceintes électromagnétiques, eh bien, avaient des variations d'ondes alpha, des ondes cérébrales qui sont liées à la relaxation chez l'être humain. Très bien. Et pour Joël Kirchwinck, en fait, cette diminution d'amplitude des ondes alpha chez les êtres humains soumis à un champ électromagnétique artificiel simulant celui de la Terre serait l'indice d'une perception inconsciente du champ magnétique. Le problème de l'étude de Kirchwinck, c'est pas sérieux de Kirchwinck, qui est un grand scientifique, c'est qu'il a utilisé très peu de sujets. C'est des études qui coûtent très cher. Et donc, statistiquement, pour l'instant, il n'y a pas la démonstration d'une perception inconsciente du champ magnétique terrestre. Vous allez me dire, mais pourquoi quelqu'un comme Kirchwinck, qui est un grand chercheur spécialiste du champ magnétique terrestre, s'acharne sur ce sujet? C'est parce qu'il n'est pas absurde de penser, vu le nombre d'animaux qui perçoivent le champ magnétique terrestre, qu'on pourrait avoir un vestige de cette perception, mais qui ne serait pas conscientisé. Mais ce n'est pas démontré à ce jour. Cela dit, dans le monde animal, il y a quantité d'espèces qui perçoivent très bien le champ magnétique terrestre. La tortue verte, qu'on connaît bien, notamment à La Réunion et dans l'océan Indien, pour ses migrations, utilise la perception des variations du champ magnétique terrestre selon la latitude pour retrouver son lieu de ponte. Vous avez les requins marteaux qui perçoivent aussi bien le champ magnétique terrestre. Vous avez l'ornithorynque. Vous savez, ce mammifère étonnant qui pond des œufs, qui a un bec de canard, bon, et qui pour les mâles a des éperons venimeux aux pattes postérieures, ben, l'ornithorynque, quand il est dans sa mare là, australienne et qu'il chasse les petites crevettes d'eau douce dont il se nourrit, il ferme les yeux, il a tendance à obturer les oreilles, et au bout du compte, avec quoi il perçoit les petites crevettes qu'il va manger, qu'il va gober? Eh bien, à travers la perception du champ électromagnétique entourant la crevette. Et il y a des récepteurs spécialisés qui perçoivent le champ électromagnétique de la crevette dans le bec de l'ornithorynque. Et bien sûr, ces récepteurs électromagnétiques du bec de l'ornithorynque sont reliés à son cerveau, hein, par un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Il y a même des dauphins dont on sait que, et certains cétacés à dents, qu'ils perçoivent le champ électromagnétique. Et puis, bien sûr, un certain nombre d'oiseaux migrateurs, mais les oiseaux migrateurs n'utilisent pas que le champ électromagnétique, sa perception pour migrer. C'est multifactoriel.
Justement, tout au long de votre livre, vous rappelez également que la recherche a fait des découvertes significatives en ce qui concerne les oiseaux, dont la complexité cognitive ne fait plus de doute aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage?
Oui, en fait, les oiseaux, on a découvert des tas de choses qu'on ne soupçonnait pas sur la modalité sensorielle. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est comment dire, l'abaissement, la diminution en ampleur de certains préjugés de la part des chercheurs au cours de l'histoire, parce que les scientifiques sont des êtres humains comme les autres avec leurs préjugés. Ben, l'abandon de certains préjugés qui a permis ces découvertes chez les oiseaux. Parce que je vous disais tout à l'heure, les invertébrés étaient considérés un peu comme des animaux de seconde zone en termes de complexité autrefois, notamment de complexité adaptative. De la même façon, au sein des vertébrés dits supérieurs, très mauvais terme, les oiseaux et les mammifères, les oiseaux étaient toujours considérés comme sous-développés neurologiquement. Et maintenant, on sait que le cerveau des oiseaux est très complexe, très différent du nôtre, mais tout aussi sophistiqué. Et on a découvert, notamment à partir des années 1960, ce qu'on avait déjà pressenti du temps de Darwin, que les oiseaux ont un odorat bien développé pour la plupart. Hein, vous avez par exemple dans le parc naturel de Fango en Corse, eh bien, des mésanges bleus qui vont orner en apparence, parce qu'en fait ce n'est pas du tout esthétique comme chez certains oiseaux tropicaux, ces mésanges bleus du parc naturel de Fango ornent les nids d'un certain nombre de plantes. Et en réalité, c'est toujours des plantes aromatiques, comme la lavande ou la calaminthe. Et ces plantes aromatiques ont des propriétés antiseptiques, désinfectantes, de façon à ce que leurs petits, leurs couvées se développent bien. Et comment reconnaissent-elles ces plantes aromatiques, les mésanges bleus de Fango, encore, c'est bien, grâce à leur odorat. Et plus généralement, on a compris que des oiseaux qui étaient jugés comme totalement banals, il faut toujours se méfier de la notion de banalité en science, elle n'a pas de sens, parce qu'on peut regarder quelque chose qui nous paraît banal avec un nouveau regard. Eh bien, des oiseaux qui paraissaient complètement banals, comme le pigeon, qui certes peut être voyageur, et ça c'est justement tout l'enjeu, étaient capables de performances cognitives incroyables pour retrouver leur pigeonnier, leur colombier. Alors, on a compris dans les années 1970 que l'olfaction, comme pour les mésanges de bleu de Fango, jouait un rôle, parce qu'à travers des expériences barbares où on leur a sectionné des nerfs olfactifs, eh bien, ces malheureux pigeons avaient du mal à retrouver leur pigeonnier. Mais on s'est aperçu qu'en fait, l'olfaction jouait dans la cartographie des déplacements du pigeon, que quand le pigeon n'était pas très éloigné de son pigeonnier, quand c'est très très long parcours, comme on faisait autrefois quand on les utilisait comme pigeons voyageurs pour transporter des messages militaires, eh bien, il y a la perception du champ électromagnétique qui joue aussi dans les déplacements du pigeon, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le pigeon, il a des cristaux de magnétite dans l'œil, il a des cristaux de magnétite dans le bec, et ça l'aide à percevoir les variations de champ magnétique terrestre et ainsi de se repérer dans l'espace. Bon, mais on ne comprend pas tout encore hein, de la perception du champ magnétique terrestre par le pigeon voyageur. On sait que c'est quelque chose de très complexe parce que, très bizarrement, cette perception du champ magnétique terrestre chez cet animal-là, le pigeon, passe d'abord par la vision. Eh oui, c'est-à-dire que dans l'œil du pigeon, vous avez ce qu'on appelle un cryptochrome, c'est un pigment, qui est sensible au champ magnétique terrestre et à ses variations, qui va créer un stimulus visuel, qui va transformer une stimulation électromagnétique en stimulation visuelle. Et puis après, eh bien, cette information visuelle va être stockée dans la mémoire du pigeon pour se repérer dans l'espace. Et en fait, le pigeon, il va construire des cartes mentales de ses déplacements sur éventuellement des centaines de kilomètres en combinant stimulation visuelle, stimulation olfactive, et puis bien sûr, perception des variations du champ magnétique terrestre. Et ça nous amène à quelque chose d'extraordinaire, quand je disais que la perception animale, c'est dépaysant, c'est décentrant par rapport à notre perception humaine, c'est que nous, quand on fait une carte mentale, quand on n'utilise pas notre GPS, mais quand on mémorise mentalement le trajet, un trajet de randonnée par exemple à pied, et bien on le fait sous forme d'image mentale, donc à base de stimuli visuels. Tandis qu'un pigeon voyageur, quand il fait une carte mentale d'un parcours sur des centaines de kilomètres, eh bien, il fait une carte mentale qui combine des informations visuelles, électromagnétiques, d'origine électromagnétique et olfactives. Et alors, des représentations mentales qui sont à la fois olfactives, visuelles et à base de stimulation électromagnétique perçue, c'est inconcevable pour nous. Donc, l'univers mental du pigeon est extraordinaire, alors qu'il a l'air d'une banalité terrible, cet oiseau. Quand on le voit dans un parc public.
Alors vous donnez, Benoît Grison, de nombreux exemples pour illustrer toutes les façons de percevoir la réalité. Comment avez-vous sélectionné ces exemples?
Alors, en fait, effectivement, c'est un problème quand on écrit un ouvrage d'histoire naturelle de ce type, c'est que la nature, comprendre le processus évolutif, a beaucoup plus d'imagination que nous. Alors, il faut dire qu'il a le temps par rapport à nous, hein, d'exprimer entre guillemets sa créativité, hein, des centaines de millions d'années. Et en fait, c'est le principe de l'entonnoir, hein, que connaissent beaucoup d'essayistes, c'est-à-dire que j'avais énormément de données issues de beaucoup de travaux scientifiques sur les différentes modalités perceptives. J'ai choisi les plus spectaculaires ou les plus exemplaires, les plus illustratives de certains mécanismes que je voulais vulgariser. Voilà. J'ai tenté de retenir, hein, pour parler trivialement, la crème des exemples. Voilà. Mais effectivement, c'est toujours un problème parce que la nature, la biologie, ce n'est pas comme les sciences physiques. Les sciences physiques, on fait des lois générales. Et en biologie, à part les mécanismes fondamentaux de type évolutif et génétique, il n'y a pas de généralité, il y a plein de cas particuliers. Donc, il ne faut pas se perdre dans le labyrinthe des cas particuliers, essayer quand même de dégager certains grands mécanismes d'ensemble. Et pour ça, bon, il faut prendre son temps pour choisir les exemples, oui.
Alors, est-ce que vous avez peut-être un petit préféré?
Oui, le narval. Le narval, d'abord, c'est un très bel animal, bon, on connaît tous. C'est assez à dents, mais c'est assez à dents particulier, hein, parce que, en fait, les mâles ont cette corne, comme on disait autrefois, puisqu'on la faisait prendre, hein, certains escrocs la faisaient prendre au Moyen-Âge pour une corne de licorne. En fait, bon, c'est une dent hypertrophiée qu'ont les mâles. hein, qui ressemble effectivement à une corne. Bien. Alors, elle sert à quoi? Bah, elle sert bien sûr au mâle à faire des parades sexuelles, à combattre pour montrer qu'ils sont le plus fort au moment de la reproduction. Alors, montrer à qui qu'ils sont le plus fort, bah, comme chez beaucoup de mammifères ou femelles. Bien. Ces défenses de narval, elles servent aussi, hein, ces dents hypertrophiées chez les mâles, à pêcher, à chasser. Bien. Mais on a découvert ces 20 dernières années, une équipe d'odontologues d'Harvard, un usage de la défense du narval qu'on ignorait complètement, qui est un usage perceptuel. En fait, la défense de narval, elle est totalement constellée de plusieurs millions de récepteurs sensoriels, qui sont en fait des récepteurs sensoriels de la dentine. La dentine, c'est ce qu'il y a en dessous de l'émail de la dent des mammifères. Mais chez le narval, l'émail, contrairement à chez nous, a été repoussé sous la dentine et ça fait saillir donc des récepteurs sensoriels, ceux qui nous font tant souffrir quand on a des problèmes d'émail dentaire, nous. Et ces récepteurs sensoriels, des millions sur cette corne torsadée, permettent au narval d'être un véritable océanographe en action, c'est-à-dire qu'il analyse la qualité de l'eau de mer, hein, que ce soit en termes de température, de pression, de salinité. Mais à quoi ça sert, vous me direz? Ben, ça lui sert à un comportement d'anticipation cognitive. Le problème du narval, c'est de ne pas se retrouver bloqué par la banquise en formation et de faire sa migration, puisque c'est un être social avec ses congénères, avant que le glaçage de la banquise advienne. Et grâce à ces paramètres qu'il analyse à travers sa dent, sa perception dentaire de l'eau, il peut savoir quand l'eau de mer est sur le point de devenir banquise et il peut quitter la région concernée avant, de manière anticipée. Et tout ça grâce à cette dent extraordinaire. De plus, en fait, la défense des mâles narvals leur servirait aussi à percevoir les variations d'hormones sexuelles subies par l'organisme des femelles au moment de la saison des amours, au moment de la période du rut. Donc, c'est un monde perceptif extraordinaire à travers cette dent elle-même extraordinaire et hypertrophiée chez les mâles narvals qui s'ouvre à propos de ce cétacé.
Votre ouvrage représente un énorme travail de documentation, mais je précise que le contenu de votre essai est résolument scientifique. Les mécanismes sont vraiment donnés. Vos lecteurs peuvent être tout à fait des scientifiques chevronnés.
Alors, oui, mais j'espère bien que mes lecteurs peuvent être aussi d'absolus non-scientifiques parce que j'ai essayé de décrire dans un langage accessible et extrêmement clair autant que faire se peut. La question, en fait, c'est d'écrire dans ces cas-là un essai qui est accessible, comme on disait autrefois, à l'honnête femme, à l'honnête homme, donc quelqu'un qui a une volonté de savoir, mais qui n'a pas forcément des bases en biologie. Après, bien entendu, c'est aussi un ouvrage qui est destiné à des collègues qui ne travaillent pas dans ces domaines-là de la cognition et qui pourraient être intéressés. Voilà, j'essaie de jouer sur les deux tableaux, ou plus exactement d'être le plus lisible possible.
Oui, parce que cette rigueur scientifique, elle n'empêche pas ce qu'on appelle la vulgarisation. Moi, je préfère le terme de transmission. En tout cas, c'est important pour vous de savoir parler à ce qu'on appelle le grand public.
Ah oui, bah, en fait, je pense que ça fait partie de notre travail de chercheur. Même le mot vulgarisation, moi aussi, je préfère transmission des connaissances, mais même le mot de vulgarisation, pour moi, il n'a rien de vulgaire. Ça veut dire transmettre au plus grand nombre. Eh bien oui, c'est super important de vulgariser. Parfois, beaucoup d'auteurs, notamment littéraires ou de milieux culturels, ont tendance à penser que la science ne fait pas partie de la culture. Moi, je pense que c'est une erreur. Alors attention, hein, tous les gens des milieux culturels et littéraires ne pensent pas ça. Il y en a de moins en moins. Mais je pense qu'il faut faire avancer cette idée à travers la vulgarisation scientifique que la science fait partie intégrante de la culture. Et elle est aussi fascinante que les arts, à condition, bien entendu, de sortir de sa tour d'ivoire et de tenir des propos compréhensibles pour les non-spécialistes.
Alors en parlant d'art, votre ouvrage bénéficie d'illustrations. Je dis bien bénéficie parce que les planches signées Arnaud Raphaëlian sont superbes et pleines d'un humour qui souligne avec malice vos propos et explications.
Tout à fait. Arnaud Raphaëlian, qui est un grand illustrateur naturaliste, est quelqu'un qui allie la précision naturaliste, C'est-à-dire tout naturaliste, tout collègue qui voit ces illustrations peut constater qu'il n'y a pas d'erreur scientifique, hein, dans la description graphique d'organismes, ils sont parfois complexes. Mais il allie cette rigueur scientifique, Arnaud, à un humour qui est extrêmement, je dirais, salvateur, parce que ça permet de souligner que l'ouvrage que j'ai écrit et qu'il a illustré est certes sérieux, mais ne fait pas dans l'esprit de sérieux.
Vous vous êtes bien trouvés en somme.
Oui, mais on a déjà travaillé ensemble auparavant, justement, pour illustrer, Arnaud a illustré certains de mes articles de vulgarisation dans l'excellente revue Espèce. Voilà, donc oui, c'était une collaboration dont j'étais très heureux et honoré.
Alors vous achevez le livre sur la question de la sentience. Pourriez-vous nous expliquer ce terme et en quoi cela est-il lié à la question de la perception?
Alors la sentience renvoie à une modalité perceptive qu'on oublie toujours, à côté de la perception du corps, à côté bien entendu de la perception du champ électromagnétique terrestre et ses variations par certains animaux, c'est la perception de la douleur. La perception de la douleur, c'est à la fois important sur le plan scientifique et sur le plan éthique. Sur le plan scientifique, ce qu'on appelle douleur, en fait, c'est un signal qui est perçu consciemment par certains animaux et qui alerte l'animal d'un danger pour sa santé, pour l'intégrité de son organisme. Sur le plan éthique et philosophique, il est important de savoir quelles peuvent être les espèces animales qui ont une perception consciente de stimuli nocifs pour elles, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, ces espèces animales à perception consciente, conscientisée de la douleur, eh bien, elles nécessitent un traitement éthique à minima. Alors, c'est une question complexe, hein, cette question de la sentience, de la perception de la douleur, parce que un animal peut très bien percevoir un stimulus dangereux, potentiellement nocif pour son organisme, sans en avoir conscience. Alors, un exemple qui est terrible, mais ces expériences-là ont été faites autrefois, elles ne sont plus faites, et je pense que c'est une très bonne chose. Si un chat a la moelle épinière sectionnée et séparée du cerveau, et si la patte du chat est mise en contact avec une chaleur excessive qui brûle cette patte, la patte se retirera. Pourtant, il n'y a plus de communication entre la moelle épinière et le cerveau. C'est à ce moment-là un réflexe de la moelle épinière. Et à ce moment-là, ce n'est pas une perception consciente. Par contre, on sait de nos jours, et c'est bien pour ça que ce genre d'expérience, il n'est vraiment pas légitime de les réitérer, qu'un chat dont la jonction entre la moelle épinière et le cerveau est intacte, perçoit consciemment et douloureusement des stimuli nocifs. Et maintenant, on sait que tous les mammifères ont le même appareillage neurologique de perception de la douleur que l'être humain. Alors, ils ont notamment des centres développés comme l'insula, qui jouent dans la perception de la douleur. Ils ont les mêmes nocicepteurs, les mêmes récepteurs de la douleur, tous les mammifères. Et plus généralement, ils ont les mêmes morphines naturelles, c'est des endorphines que le cerveau des mammifères libère quand les mammifères ont très mal consciemment. Bien. Donc, maintenant, le problème de la sentience, il n'est plus débattu scientifiquement pour les mammifères. Tous les mammifères ressentent la douleur de la même façon que nous, peu ou prou. Après, il y a des problèmes d'arbitrage éthique, est-ce qu'on doit continuer à expérimenter sur certains mammifères, etc. Mais en tout cas, il y a bien sentience chez tous les mammifères. Chez les oiseaux, c'est pareil. Alors, il y a un grand point d'interrogation sur cette espèce de fourre-tout, de catégorie fourre-tout des invertébrés, qui, comme on disait, en fait, regroupe beaucoup, beaucoup d'animaux très différents. Bon, et actuellement, on sait que certains crustacés perçoivent parfaitement la douleur. On sait que, par exemple, des bernards lermites qui habitent, comme on le sait, dans des coquilles de mollusques récupérés, eh bien, ils auront tendance à sortir rapidement de leur coquille si on leur envoie des chocs électriques. Ça, c'est les travaux d'un chercheur irlandais, Elwood. Sauf si la coquille dans laquelle ils sont abrités est particulièrement protectrice, cette coquille de mollusque récupérée. À ce moment-là, le bernard lermite aura moins tendance à sortir par rapport au choc électrique parce que Elwood pense qu'il fait une sorte d'arbitrage cognitif en disant cette coquille que j'ai trouvée est parfaite pour me protéger des prédateurs, je vais tenir face à ces stimuli désagréables électriques et je ne vais pas en sortir. Par contre, le même animal, s'il est dans une coquille très peu protectrice, là, il y aura une différence significative de comportement. il préférera renoncer à cette protection qui est de toute façon imparfaite pour se sauver par rapport à ces stimuli électriques qu'on envoie dans sa coquille. Donc il y a bien une perception chez certains crustacés de la douleur, alors ça ouvre des perspectives. Comme par hasard, les céphalopodes aussi. Poulpes et calmars semblent percevoir la douleur, mais quand je dis comme par hasard, c'est une ironie, parce que vu leur niveau cognitif, ce n'est pas vraiment étonnant. Par contre, pour les insectes ou les araignées, ce qu'on appelle les arachnides, on ne sait pas.
En tout cas, ça pose un certain nombre de questions. Alors, Benoît Grison, je voudrais aller encore un petit peu plus loin, au-delà de la perception. Figurez-vous que j'ai pensé à vous en promenant mon chien récemment. Alors, je vous explique pourquoi. Il
Dites-moi.
était tout affairé à suivre une piste, évidemment parfaitement imperceptible pour moi. Et ce faisant, il a allègrement piétiné des coucous, des primevères officinales que j'étais occupée à admirer en ce début de printemps. Et j'ai pas pu m'empêcher de
D'accord.
me poser la question de cette notion du beau avec un grand B, puisque je voyais dans cette fleur quelque chose de plus que mon chien visiblement ne percevait pas.
Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que effectivement au cours de l'évolution de la cognition, eh bien il y a une évolution parallèle des émotions, c'est-à-dire que de nos jours en sciences cognitives on sépare pas le développement de la cognition et des émotions. Vous voyez quand je vous dis un poulpe, il est très intelligent, c'est pas étonnant qu'on ait démontré qu'il avait une perception de la douleur. Bah oui, parce que les émotions complexes comme la perception de la douleur, la souffrance, sont liées aussi à une cognition complexe. Et effectivement, l'être humain a une cognition tellement complexe qu'il a des émotions très très sophistiquées, qui ne sont plus des émotions primaires comme la peur, la joie, etc. Les émotions esthétiques. Et alors une question qui est absolument pas tranchée de nos jours, c'est de savoir s'il y a d'autres animaux que les êtres humains, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont une cognition développée, on vient d'en parler abondamment, qui auraient un sentiment esthétique. Ça, on ne le sait pas. Vous savez que le célèbre pionnier de l'éthologie Desmond Morris a tenté de faire des œuvres d'art pictural à des chimpanzés dans les années 1970. Il semblait, en apprenant à se servir des pinceaux, peu à peu, ces chimpanzés peintres dégageaient certaines préférences pour des couleurs, une organisation des taches de couleurs sur la toile. Mais néanmoins, on n'a pas pu démontrer qu'effectivement, notre plus proche cousin, le chimpanzé, avait ces émotions dites de haut niveau, mais je veux dire très complexes, que sont les émotions esthétiques. Donc, l'esthétique, le sentiment esthétique, existe-t-il chez d'autres animaux à cognition sophistiquée que l'être humain? Ça reste un point d'interrogation. Et si c'était le cas, ce ne serait pas forcément nos sentiments esthétiques à nous. Si votre chien était capable de percevoir, d'avoir des émotions esthétiques, elle porterait peut-être pas sur les mêmes choses, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas le même développement sensoriel, les mêmes modalités.
Benoît Grison, nous arrivons au terme de ce premier entretien. En conclusion, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une échelle de valeur dans la perception du monde? Est-ce que certaines perceptions sont plus efficaces que d'autres? Et notamment la nôtre, la perception humaine, ça c'est notre tentation. Il me semble que vous invitez plutôt à l'humilité en la matière.
Oh oui. C'est un peu quelque part un fil rouge qui sous-tend l'ensemble du livre. On voit au contraire combien, sous certaines modalités sensorielles, notre perception humaine peut être pauvre. Et quelque part, la perception du monde la plus riche possible, ce serait la juxtaposition des points forts perceptuels des différentes espèces. Bon. Ah, c'est déjà ce que disait le philosophe Kant il y a bien longtemps, à l'aube des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle. Il disait, avec nos systèmes sensoriels, nous les animaux, on ne perçoit qu'une partie du réel. Et en fait, il y a des tâches aveugles cognitives dans les systèmes perceptifs de tous les animaux, y compris le nôtre. Et quelque part, oui, la perception la plus riche possible de l'univers, ça serait la juxtaposition, comme je disais, des points forts des différentes perceptions des différentes espèces animales. La nôtre n'a rien de supérieur.
Eh bien, Benoît Grison, un grand merci à vous. Je rappelle le titre de votre essai absolument passionnant
Merci à vous.
sorti aux éditions de la Chaux et Niesley, Les portes de la perception animale, avec donc des illustrations formidables d'Arnaud Raphaëlian. Merci à
Tout
vous.
à fait.
On se retrouve bientôt pour un second entretien qui sera cette fois consacré à votre travail sur la cryptozoologie, au cours duquel, c'est sûr, nous sortirons des sentiers battus. Merci beaucoup, Benoît
Bien
Grison.
volontiers.